Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Tout le monde... Oui, très bien, parfait. Oui, donc trois quarts d'heure pour présenter ce qu'est le case management, même si finalement déjà j'ai l'impression que presque l'essentiel a été dit. Je reprendrai quelques formules choc qui expliquent bien finalement à quoi sert un case manager. Alors ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que bon, c'est un terme... C'est un terme anglo-saxon, même si les mots viennent du français, comme la moitié de l'anglais. Mais c'est un terme anglo-saxon qui nous parvient effectivement historiquement d'Amérique du Nord. Ce qui a été dit, c'est que en France, il y a des appellations finalement assez différentes qui circulent, mais qui renvoient finalement à la même matrice. Effectivement, on entend beaucoup parler de référent parcours, de coordinateur de parcours. C'est un terme personnellement que j'avais propulsé en 2002 dans un ouvrage qui s'appelait à l'époque « Instaurer la relation de service » parce que le mot « coordination » me paraissait relativement intéressant. Mais on a aussi des appellations propulsées par d'autres opérateurs. Par exemple, l'ADAPT de Normandie a fait un référendum auprès de ses bénéficiaires et c'est le mot « facilitateur de parcours » qui est ressorti. Et finalement, c'est intéressant parce que la coordination, c'est un terme plus technique. Alors que faciliter, ça renvoie tout de suite à la valeur ajoutée pour les personnes concernées. Bon, on a d'autres appellations encore. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus de 250 appellations dérivées du case management. Donc, c'est dire, alors on parle parfois de gestionnaire de ressources, hein, on parle de care manager aussi dans le domaine du soin, enfin, etc. Voilà, donc ça fait partie d'aujourd'hui d'un nouveau glossaire. Vous voyez, sur cette diapo, j'ai essayé de résumer un petit peu les termes tendances de l'action sanitaire et médico-sociale. Toute cette terminologie, finalement, est née d'après-guerre et très souvent est partie, effectivement, d'Amérique du Nord. Alors, pourquoi d'Amérique du Nord? Parce que, tout simplement, les Américains, les États-Unis, c'est un peu les Romains d'aujourd'hui, du monde occidental. C'est la première puissance économique et militaire, c'est eux qui impulsent finalement à peu près tout, toutes les nouveautés à peu près dans tous les domaines. Donc généralement, on fait en Europe 10, 20 ou 30 ans plus tard ce que font les Américains en essayant d'adapter ça. Alors, le case management donc, est né aux États-Unis. Alors, les États-Unis ont beaucoup de spécificités, c'est que c'est un des rares pays quand même, il n'y en a pas tant que ça. C'est un des rares pays autoproclamés, puisque c'est un pays qui a décidé, à un moment donné, de son sort, qui a fondé, qui s'est auto-fondé avec sa propre constitution. Et c'est un pays qui a cru à une vitesse grand V. En deux siècles, on est passé d'une petite colonie à la première puissance mondiale. Donc forcément, ils ont été confrontés à des problèmes tout à fait spécifiques, notamment d'afflux de migrants. Il faut comprendre que le case management, d'abord, au départ, est né des systèmes d'assistance et de charité liés à l'afflux des migrants. Et on a commencé vraiment à utiliser le terme case management au cours de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu un afflux de blessés venant des deux fronts, évidemment pour les États-Unis. Et cet afflux de blessés a submergé, un peu comme la crise de la Covid, finalement, a submergé les services hospitaliers. Et on s'est dit, pourquoi ils sont submergés, ces services? Ben, tout simplement parce que, un peu comme chez nous aux urgences, il y a surtout des gens qui n'ont rien à faire aux urgences, mais qui se retrouvent aux urgences parce qu'il n'y a pas de traitement en amont. Tout simplement, voilà. Pourquoi en France, il y a autant de gens aux urgences? Ben, parce que quand vous appelez le SAMU, parfois vous êtes très mal reçu. Il y a plein de gens qui font des expériences très très malheureuses. Donc les gens appellent les pompiers, voilà, ou tout simplement, ils se rendent aux urgences. Pour tout et rien, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé un peu à ce moment-là aux États-Unis. On s'est dit, mais eux qui sont très pragmatiques toujours et qui cherchent toujours des organisations plutôt efficientes, ils se sont dit, il faut absolument informer les gens, il faut trier, il faut ventiler, il faut aiguiller, il faut orienter, il faut éviter finalement d'asphyxier les services. Donc c'est né fondamentalement de ça. Et ensuite l'appellation proprement parlée de case manager, elle est née dans les années 70. En fait, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs, à peu près, est né dans les années 60. Le concept d'inclusion, par exemple, full inclusion, c'est né dans les années 60-70, à une époque aux États-Unis où on commence à remettre en cause, justement, les modes de réponse institutionnalisés. Il faut savoir que, par exemple, tout le mouvement de l'antipsychiatrie est né aux États-Unis dans ces années 60 sur un constat fait à la fois par des médecins, des sociologues, des psychologues, etc., sur un double constat, l'hôpital psychiatrique n'est pas très efficace et il coûte très cher. Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer à chercher des alternatives. Voilà. Pourquoi je parle de tout ça ? Parce que le case management s'est développé dans ce contexte-là, il faut bien comprendre ça, dans ce contexte de réinterrogation des dispositifs à la recherche d'alternatives plus efficientes, c'est-à-dire qui proposent une qualité accrue, mais qui également coûtent moins cher. On pourrait citer également à la même époque l'apparition des thérapies brèves, etc. C'est tout ça concourt à la même chose, c'est la recherche de raccourcir finalement toute la dépendance institutionnelle pour le plus vite possible entrer dans des processus qu'on appelle de rétablissement, de réhabilitation, habileté au sens anglo-saxon, capacité, retrouver de l'autonomie le plus vite possible. Et aujourd'hui, ces préoccupations évidemment arrivent chez nous très fortement. On appelle ça la transformation. Transformation de l'offre sanitaire, transformation de l'offre médico-sociale et de l'offre sociale. On est dans ce processus-là. Alors pour des raisons, d'abord, faciles à comprendre, des raisons multiples. Des raisons d'abord de l'ordre de la culture et des mœurs. Nos mœurs ont évolué. On n'accepte plus aussi facilement aujourd'hui, finalement, de voir sa vie menée, complètement dirigée par des institutions. On est entré dans ce qu'on appelle un grand mouvement plan sociologique de défiance générale vis-à-vis des institutions, de toutes les institutions. Donc les personnes veulent de plus en plus avoir la main sur leur mode de vie, leur parcours, etc. Ça s'est traduit au niveau juridique par la montée des droits, montée des droits dans tous les domaines, y compris les droits des patients, bien sûr. Voilà. Donc une montée des droits extrêmement importante, une revendication donc, d'être plus maître de son parcours, c'est une chose. Dans la foulée de tout l'ensemble des mouvements des années 60, on pourrait citer le mouvement des droits civiques, des Afro-Américains, par exemple, le mouvement pour les droits pour les homosexuels, pour les femmes, etc. Donc tout ça s'inscrit dans cette même mouvance d'après-guerre, de revendication, finalement, des droits. Mais il y a d'autres raisons aussi très, très objectives, des raisons qui concernent notamment l'Europe, c'est le déclin démographique et c'est le vieillissement, qui impacte évidemment notre croissance. Je n'ai pas le temps de vous faire une présentation démographico-sociologico-économique de la situation, mais elle est extrêmement préoccupante, bien sûr, puisque l'Europe est un continent en déclin, vous le savez. Et donc, le vieillissement joue un rôle essentiel sur les dépenses de santé, qui explosent, qui ont explosé en quelques décennies, mais également sur l'action médico-sociale, puisqu'on va avoir toujours plus de gens dépendants, toujours plus de gens en situation de handicap, toujours plus de gens en situation précaire, etc. etc. Comme nous sommes en France déjà le pays au monde, il faut le dire, qui consacre le plus d'argent à la solidarité, forcément, ça a un impact très fort sur les dépenses publiques. Et vous connaissez la situation aussi de surendettement de notre pays. Et voilà, donc, automatiquement, la grande préoccupation des gouvernants aujourd'hui, c'est effectivement de trouver des solutions alternatives, je dirais, aux systèmes que nous connaissons aujourd'hui et qui sont très consommateurs en ressources. Voilà. Donc le case management s'inscrit dans cette double perspective historique de recherche d'une plus grande efficience. Alors l'appellation, elle n'est pas anodine, mais je veux dire, elle n'est pas, ça vient d'être dit à l'instant, elle n'est pas décisive. Ce qui compte au fond, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce personnage qu'on appelle référent de parcours, case manager, etc. Qu'est-ce qu'on attend de ce personnage ? En quoi il est utile ? Parce qu'évidemment, certains sceptiques, et ce n'est pas péjoratif, mais peuvent très bien après tout dire, est-ce que c'est vraiment nouveau ? Est-ce que c'est vraiment si efficace que ça ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Donc effectivement, certains opérateurs commencent d'ailleurs à se préoccuper de ces questions et par exemple à mener des enquêtes de satisfaction pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça apporte exactement aux personnes. Est-ce que ça répond aux attentes qu'on a entendues tout à l'heure des différentes personnes concernées ? J'ai bien aimé ce qui a été dit, vous voyez, quelqu'un qui ne nous dit pas toujours « je ne sais pas, je vais me renseigner, peut-être ». Ça, c'est essentiel. Parce que ce que disent, finalement, pas seulement d'ailleurs des patients, des gens en difficulté sociale, des gens qui sont en situation de handicap, mais aussi des chômeurs, ils disent tout ça de leur interlocuteur. Ils tombent sur des gens, bien souvent, qui les baladent, qui les font passer d'une instance à l'autre, d'une institution à l'autre, qui leur font des promesses qui ne sont pas tenues, qui ne savent pas toujours, parce qu'eux-mêmes, ils sont débordés. Alors, je ne vais pas insister tout de suite là-dessus, j'y reviendrai, mais il faudra quand même poser la question sérieusement du modèle français, parce que c'est quand même notre modèle qui est en cause. Nous sommes les champions de la complexité administrative. C'est ce qui nous pourrit la vie. Il faut le dire, c'est ce qui nous pourrit la vie. Et à tous citoyens, d'ailleurs, on est tous concernés par ça. On a affaire à une complexité énorme pour des raisons historiques. La France est constituée sur un mode militaro-bureaucratique autour d'un État central. Il faut bien comprendre ça. Nous sommes uniques au monde à ce niveau-là. C'est l'État français qui a créé la nation française. Tout tourne autour, finalement, de la notion de contrôle mené par l'État. L'État se charge de tout en France. Il légifère sur tout. La sexualité, la religion, les affaires familiales. Mais il ne s'intéresse pas assez, d'ailleurs, à ses prérogatives réelles, par contre, qu'il néglige. Je pense à la justice, où nous sommes à peu près au rang en Europe de la Macédoine du Nord. Donc, si vous voulez, on a un problème de modèle aujourd'hui. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Voilà, ça a été dit, il n'y a pas de coordination véritable. Aujourd'hui, on a une multitude d'acteurs, voyez, par lesquels parfois j'ai été contacté moi-même. Ça peut être le CIH, le Comité interministériel pour le handicap auprès du Premier ministre, ça peut être la CNSA, ça peut être la NAP, ça peut être la DGCS, ça peut être l'IGAS, ça peut être la CNSA. Tous ces acteurs ne communiquent pas. Ils produisent leurs propres rapports, leurs propres documents, leurs propres outils, etc. C'est une catastrophe. Je ne vous le cache pas, mais je suis maintenant pratiquement à la retraite, après 40 ans d'intervention dans ces secteurs. J'ai commencé par la psychiatrie dans les années 80, puis l'action médico-sociale. J'ai beaucoup soutenu à une époque les décisions administratives, parce qu'elles me semblaient effectivement aller dans le bon sens, sauf que j'ai compris au bout d'un moment qu'il y avait un écart massif, énorme, entre ce qui était dit au plus haut niveau et ce qui était fait réellement sur le terrain. C'est l'effet millefeuille, si vous voulez. Hein. C'est les meilleures idées qui sont promues, elles filtrent à partir du millefeuille et elles arrivent parfois complètement déformées. Regardez la MDPH, c'était calqué au départ sur le modèle californien. Je peux vous dire qu'on est très très loin du modèle californien. La MDPH ne remplit pas la moitié de ses missions, elle en sous-traite une partie. C'est une catastrophe. Voilà. Parfois, ils sont obligés de fermer pour traiter les dossiers. Voilà. Ils manquent de moyens, ils ne sont pas formés, ils n'appliquent pas la loi. Parce que, par exemple, dans la loi 2502, ils doivent aider les personnes à exprimer un projet de vie. C'est très rarement fait. C'est très, très, très rarement fait. Donc, voilà, on est déçu forcément, parce qu'on est dans un système qui, aujourd'hui, est d'une trop grande complexité. Vous pouvez lire sur Internet certains rapports, là, c'est assez ironique, il y a un rapport qui s'appelle simplifier les réponses aux personnes en situation de handicap, sans c'est plus large, bien sûr, 232 pages. Et vous lisez le rapport, vous comprenez que vous n'êtes pas convaincu que ça va être simplifié. Voilà, donc le problème est là. Le case management a été inventé pour simplifier. Au départ, c'est ça, vraiment, l'utilité du case management, c'est d'arriver justement à coordonner une multitude d'intervenants. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que, encore une fois, on a un temps limité. Pardonnez-moi, je saute. Vous aurez toutes ces diapos hein, qui pourront vous être transmises, bien entendu. Mais je vais aller à l'essentiel sur, finalement, justement, le case management. Alors, une chose quand même importante, c'est qu'il faut savoir que la France se fait quand même taper sur les doigts régulièrement pour justement ses manquements au respect des droits. Hein. Vous avez peut-être lu le rapport de Mme de Vandas Aguilar, mandatée par les Nations Unies, hein, qui est avocat des droits de l'homme. Je vois qui l'a lu ici, d'ailleurs. Bon, pas grand monde, si, quand même, si elle est osée, allez-y, une personne, deux personnes. Oui. Bon, vous êtes dans la moyenne, hein, c'est à peu près ça en général. Bon, il n'est pas très long, vous voyez, contrairement à nos rapports franco-français, il est court. Lisez-le, je vous invite à le lire, parce qu'il est vraiment, très bien fait. Il est très synthétique. Vous lisez ce rapport, vous avez tout compris sur les problèmes que connaît notre pays en matière de respect. La France ne respecte pas la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap qu'elle a signée. Pourtant, voilà. Bon. Donc vous comprenez pourquoi, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi elle ne respecte pas cette convention. Une chose quand même aussi, avant de revenir sur le case management, qui est importante, je rebondis tout de suite sur ce qui a été dit, c'est la question au fond, elle s'est posée d'emblée au niveau du case management, dès sa naissance, c'est pour qui travaille le case manager, finalement. Cette question est très très forte aujourd'hui parce que dans la plupart des cas chez nous, les case managers ou assimilés sont employés par des opérateurs. Quelques-uns sont financés, comme c'est le cas déjà extrêmement fréquemment en Europe, par des compagnies d'assurance par exemple, ou par des mutuelles, mais Dans la plupart des cas, ils sont employés par les opérateurs. C'est-à-dire que ça pose la question d'un conflit d'intérêts, puisque les opérateurs sont parties prenantes. Voilà. Donc la question se pose pour qui travaillent les case managers. Et on est un certain nombre, en lien avec quelques associations militantes, à défendre un principe qui est prôné par beaucoup d'ONG européennes et mis en place par certains pays. C'est ce qu'on appelle la solvabilisation des personnes concernées. C'est-à-dire que, finalement, les personnes concernées aient directement des ressources pour financer et choisir le référent de parcours, le case manager. Voilà. Donc c'est une idée qui fait son chemin, qui pour le moment paraît aberrante chez nous en France, pour les raisons que j'ai indiquées, mais quand même qui a commencé à être évoquée, puisque dans le rapport du sénateur Philippe Mouillet de 2018, il dit, en langage très énarquien, bien sûr, le groupe de travail s'est penché sur la question de la solvabilisation des personnes. Donc c'est dire que c'est une idée qui fera son chemin. Pour le moment, il faut savoir qu'il y a des case managers indépendants, hein, ça existe. Ils sont très rares, mais ça existe. Évidemment, comme ils sont financés par les personnes qui n'ont pas d'aide, c'est assez élitiste. Il faut être clair, c'est des case managers qui sont payés par des gens aisés. Moi, j'ai connu des familles, par exemple, de la Côte d'Azur, assez aisées, qui payaient un case manager pour s'occuper, suivre le parcours de leur enfant, par exemple. Voilà. Donc ça existe, mais pour le moment, c'est très marginal, puisqu'encore une fois, on n'est pas dans une solvabilisation. Il existe aussi quand même, il faut le dire, quelques plateformes qui font appel à des case managers et qui, en fait, croisent un petit peu les financements personnels d'individus, mais aussi qui font du fundraising, qui recherchent des fonds par mécénat, qui sollicitent le mécénat pour justement permettre à des gens qui ont peu de moyens de bénéficier de ces aides-là. Alors, qu'est-ce que le case management, parce que c'est quand même le sujet, même si ça mord sur plein d'autres raisons. Oui, les raisons aujourd'hui, finalement, de mettre en place ce case management, qui encore une fois est un terme assez récent en France. Je me souviens que la FEGAPEI avait organisé il y a une dizaine d'années un colloque à Paris sur le case management, et à l'époque on avait un peu découvert le terme en France parce que il était connu de manière assez confidentielle, mais c'était pas un terme couramment utilisé, si vous voulez. On connaissait la traduction littérale de gestionnaire de cas dans le cas du dispositif Maya pour les patients atteints d'Alzheimer, mais voilà, on connaissait pas cette appellation. Donc, elle s'est diffusée assez récemment. Il y a une fédération, d'ailleurs, des case managers qui s'est créée en 2015 en France. Donc, tout ça est assez récent. Voilà. Mais donc, les raisons du case management ou de la coordination des parcours, c'est à la fois la multiplication et la diversification des intervenants. On a de plus en plus de personnes qui cumulent un certain nombre de difficultés. Tout simplement aussi parce qu'on est plus attentif à la situation globale des personnes. Et beaucoup de personnes ont des problèmes de santé, mais aussi soit du fait justement de ces problèmes de santé, soit par ailleurs, peuvent aussi avoir des difficultés en termes d'incapacité, de déficience, mais peuvent aussi avoir des difficultés économiques, relationnelles, sociales, etc. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour prendre en compte la situation d'une personne, il ne faut pas seulement des personnels soignants, il faut aussi souvent solliciter tout un ensemble de professionnels, de champs différents, très cloisonnés en France, puisque c'est assez récent que finalement on fait de plus en plus des séminaires, des colloques comme ça, qui croisent le sanitaire, le médico-social et le social. Mais il faut savoir quand même que pendant longtemps, c'était des univers complètement cloisonnés. C'est la prise de conscience des dégâts de ce cloisonnement et qu'il faut au contraire décloisonner. C'est ce qu'on appelle la vision 360, les communautés 360 qui sont nées avec la situation, la crise du Covid, reprennent cette notion de 360 qui était déjà utilisée dans le case management, 360 degrés, ça veut dire qu'on décloisonne, on essaye de prendre en compte la globalité de l'écosystème, on prend un terme à la mode, de la personne, et qu'à partir de là, on va se trouver en présence d'une foule de gens concernés. Donc plus il y a d'intervenants, plus il faut les coordonner. Voilà. C'est plus forcément une institution qui peut faire ça, puisque les institutions, au contraire, sont très, très cloisonnées. C'est forcément une autre fonction qui, elle, va finalement faire ce lien, un petit peu comme finalement un médecin traitant aujourd'hui, et finalement déjà un coordinateur, si vous voulez, en matière de soins, puisque lui, il va passer le relais très rapidement à d'autres acteurs. Donc, diversification, intrication, hein, c'est très lié, bien sûr. Désinstitutionnalisation, terme, là aussi, qui est apparu assez récemment, hein, notamment, enfin, c'est un terme qui était connu en psychiatrie, qui avait été utilisé d'ailleurs au départ uniquement dans le champ psychiatrique, hein, là aussi, aux États-Unis, dans les années 60, hein, voilà, et qui a ressurgi plus récemment avec une recommandation européenne, qui s'appelle la recommandation européenne pour la désinstitutionnalisation des enfants en situation de handicap, qui concerne donc les enfants, mais le terme, du coup, a rebondi, hein, et finalement est sorti du champ psychiatrique pour concerner aussi d'autres institutions. Alors c'est un terme qui prête à confusion, parce que évidemment ce n'est pas la fin des institutions, hein, mais ce terme est à resituer dans son contexte. C'est tout simplement l'idée, au fond, on pourrait dire même peut-être une réinstitutionnalisation, c'est-à-dire c'est l'idée de déconstruire des institutions traditionnelles pour en fait reconstruire de nouveaux dispositifs, de nouvelles formes, de nouvelles institutions, appelons-les comme ça, mais différentes, moins cloisonnées, plus souples, plus modulables, plus transversales, etc. Voilà. Ce qu'on appelle parfois aussi des plateformes de services, si vous voulez, c'est une variété justement de nouvelles organisations, plus transversales, plus horizontales, plus capables finalement de s'adapter, de moduler leurs interventions aux situations singulières de chaque personne. Progrès de l'inclusion, hein, là aussi je vais revenir sur le concept d'inclusion, mais l'inclusion est un concept qui est né là aussi dans les années 60, une réflexion politique. L'inclusion finalement c'est pas la même chose que l'insertion, l'intégration, c'est même le contraire. On demandait à des personnes de s'intégrer, de s'insérer. L'inclusion, on demande à la société d'inclure des personnes. Vous voyez, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de prisme extrêmement conséquent. On dit qu'on est passé du modèle médical au modèle politique. Voilà. Le modèle médical, c'est l'expertise. Ça ne veut pas dire que les médecins, évidemment, n'ont plus de raison d'être et n'ont plus de rôle à jouer. Ce n'est pas ça du tout. C'est que par modèle politique, il faut dire qu'aujourd'hui, avec l'inclusion, on questionne la société à travers des décisions d'ordre politique, et donc qui se traduisent en termes de réglementation et de droit, pour que la société soit inclusive, c'est-à-dire qu'elle n'exclut pas, hein, voilà, et qu'elle aménage, elle aménage ses institutions, les environnements, pour permettre à des personnes, hein, quelle que soit leur situation, d'avoir accès aux mêmes droits que les autres citoyens. Voilà. Donc vous voyez, tout ça fait partie d'un même mouvement, désinstitutionnalisation, accès aux droits communs, mainstreaming, inclusion, fait partie du même changement de paradigme qu'on pourrait résumer par un recentrage simplement sur la personne, son parcours, son projet de vie, sa situation. Voilà. Variabilité des parcours. Faire du sur-mesure, ben oui, c'est vraiment ça la personnalisation. C'est sortir des schémas standards pour s'adapter à chaque situation. Ça peut paraître compliqué, voire plus coûteux, mais finalement, non, à terme, c'est l'inverse. Quand on fait du sur-mesure, on fait aussi des économies parce qu'on ne fait pas surconsommer. Vous voyez ? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de surcoûts par des doublons, des triplons, des actes inutiles. Il y a la Cour des comptes qui, chaque année, évalue, chiffre le coût sanitaire des actes inutiles. C'est absolument monumental, mais il y en a partout, des actes inutiles. C'est également la variabilité et l'instabilité des parcours qui nécessitent une coordination. Ça a été dit tout à l'heure. Évidemment, la vie, c'est pas une autoroute. La vie, c'est pas une trajectoire au sens physique du terme. La vie, c'est un parcours fait d'aléas, d'imprévus. On ne sait pas ce qu'on va devenir demain. Personne ne peut le dire. On peut avoir un accident de la vie, on peut avoir au contraire un événement heureux. Et notre parcours est imprévisible, totalement imprévisible. Et donc, forcément, quand on suit un parcours de vie, contrairement à ce que fait une institution, qui elle essaie de faire rentrer la personne dans ses schémas, quand on suit le parcours de vie, il faut faire preuve d'une très grande souplesse, une très grande adaptabilité. Et ça, les institutions en sont difficilement capables. C'est encore pour ça qu'il faut vraiment créer cette fonction intermédiaire, cet ajusteur, parce que finalement, c'est ça un case manager, c'est un ajusteur entre les attentes et les réponses. C'est quelqu'un qui va chercher toujours les meilleures réponses aux attentes de la personne. Et puis, bien sûr, nécessité de réduire les surcoûts, ça va de soi, puisque ça, c'est ce qu'attend la puissance publique, bien sûr. Donc en fait, le case manager, c'est quelqu'un qui va rendre compatibles deux logiques, deux intérêts différents, les intérêts de la personne évidemment concernée, qui elle attend un plus de cette fonction, hein, de la lisibilité, de l'information, du soutien, etc. Mais aussi, il va apporter un plus aux financeurs, à la puissance publique, dans la mesure où il va éviter le gaspillage de certaines ressources. Si finalement, on peut prendre l'exemple suisse, parce que ce sont nos voisins, hein. En Suisse, il y a beaucoup de case managers qui sont financés par les caisses d'assurance maladie, parce qu'ils ont un système différent d'une autre. Et pourquoi croyez-vous que les caisses d'assurance maladie financent des case managers? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour les beaux yeux simplement des personnes, c'est parce que, effectivement, ça abaisse les coûts. Donc il faut évidemment veiller à ce que ça ne soit pas destiné qu'à baisser les coûts, mais qu'on ait un compromis optimal, comme on dit, qu'on soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on ait à la fois une meilleure utilisation des fonds pour pouvoir répondre à davantage de personnes, parce que c'est ça le deal, finalement. Ce n'est pas de faire du bénéfice, bien sûr, c'est de pouvoir mieux utiliser les ressources. Donc le case management, il se caractérise par cette recherche, une recherche d'efficience, hein, c'est très important, c'est-à-dire raccourcissement ou allègement des interventions des différents acteurs, par la détermination d'objectifs précis, donc c'est une méthodologie aussi, hein. Des objectifs précis, une durée déterminée, des délais, une évaluation systématique, c'est-à-dire une démarche finalement assez rationnelle, assez scientifique. Hein. C'est pour ça que dans certains pays comme aux États-Unis, ça va souvent de pair avec la notion de programme. Hein, le case manager est très souvent quelqu'un qui, en fait, gère un programme, hein, c'est-à-dire la notion de programme sous-entend une durée limitée. Voilà. Aux États-Unis, très souvent, en tout cas dans le domaine de la réinsertion, par exemple, ce n'est pas des services qui sont financés, ce sont des programmes. Les programmes sont évalués par des instances objectives, les universités par exemple, et en Suisse sont financés uniquement les programmes qui sont suffisamment jugés efficaces. Voilà. Après, la question, c'est évidemment les critères d'efficacité. Il ne faut pas avoir les mêmes critères que Pôle emploi, hein, vous savez, qui cherche par exemple, qui ne cherche pas du tout à faire retrouver du travail aux chômeurs, mais au contraire à les faire disparaître des statistiques. Voilà. Donc il faut être très vigilant sur les critères de l'évaluation. Il se caractérise également, le case management, par une posture, je l'ai dit, je le répète, une posture centrée sur la personne et ses attentes propres. On parle en management d'approche centrée sur le client. Et une relation privilégiée. Une relation privilégiée, justement, qu'on va retrouver dans tous les métiers de l'ordre du coaching, et une recherche d'autonomie. Le but, c'est toujours de chercher à sortir de l'assistanat. Vous savez, l'assistanat, c'est le contraire de l'aide. Vous voyez, il y a un proverbe chinois qui est très connu, qui dit « Donne-moi un poisson, je vivrai un jour, apprends-moi à pêcher, je vivrai toujours. » Aider, c'est tout le contraire de pérenniser une personne dans l'assistanat. L'assistanat rend dépendant, que ce soit au niveau international, d'ailleurs, que ce soit au niveau des individus, c'est la même chose. Chaque fois qu'on fait de l'assistanat, on crée de la dépendance. L'aide, c'est le contraire. Ce n'est pas créer de la dépendance, c'est créer de l'indépendance. C'est amener une personne, tant que faire se peut, bien entendu, au maximum de l'autonomie qui est possible pour elle. Voilà, ce n'est pas la lâcher non plus dans la nature, c'est chaque fois très modulé, la faire accéder au maximum d'autonomie. Donc ça a été dit tout à l'heure, si finalement quelqu'un peut se débrouiller par lui-même, s'il peut être son propre coordinateur de parcours, il n'a pas besoin de case manager, c'est complètement évident. Donc le case manager ne peut pas être un dispositif imposé, c'est forcément un dispositif qui est une proposition, hein, qui doit avoir l'agrément, bien sûr, de la personne concernée, d'où on verra que le case manager, le coordinateur de parcours, doit à un moment donné aussi être capable d'expliquer parfaitement sa fonction, de la valoriser, pour permettre effectivement aux personnes qu'il va suivre de faire un choix le plus éclairé possible. Donc son noyau dur au case management, c'est la personnalisation, c'est la participation de la personne, hein, très forte. C'est une coordination, on l'a dit, de partenaires de ressources. C'est aussi l'assurance d'une continuité. On ne lâche pas la personne, une continuité autour de la poursuite d'objectifs définis. C'est une coévaluation des effets. Hein, coévaluation parce que à la fois, on va s'intéresser, bien sûr, à ce que pense la personne, à sa satisfaction, à ce qu'elle elle retire un bénéfice, à ce qu'elle comprend, à ce qu'elle perçoit l'intérêt que ça peut présenter pour elle, mais aussi une évaluation qui peut être plus objective de la part notamment d'intervenants, de professionnels qui eux aussi peuvent donner leur point de vue, bien entendu. Et puis, c'est cette posture d'accompagnement forte, de coaching, qu'on appelle aussi une position de l'ordre de l'advocacy, hein, c'est un terme qui désigne la défense des droits et des causes des personnes. Vous savez qu'il existe une association, d'ailleurs, Advocacy France, qui est l'antenne, malheureusement, assez restreinte par rapport à ce qui existe en Europe, de très puissantes ONG. La France est le seul pays pratiquement développé qui n'a pas d'association, très peu. Il y a l'UNAFAM, effectivement, qui fait partie un peu des exceptions, mais on a très peu d'associations représentatives des personnes en France. Alors que dans le monde, dans le monde, bien entendu, très développé, c'est l'inverse. Ce sont ces associations et ces ONG représentatives qui ont fait pression sur la législation des États pour transformer. Alors que nous, en France, ça passe par le haut. Vous voyez ? La transformation, elle nous vient de l'extérieur, des pressions européennes notamment, elles descendent via notre ministère. Voilà. Donc, et encore une fois, pourquoi ? Parce que très vite, l'État s'est mêlé de tout, s'est emparé de tout. On est dans un système totalement phagocyté par la puissance publique. Vous voyez ? Aussi bien au niveau financier qu'au niveau administratif, constamment. Donc, c'est ce qui a squeezé la nécessité de faire apparaître. Alors, paradoxalement, c'est là où il n'y avait pas de réponse, où des associations sont créées. Il y a eu le phénomène de l'autisme, hein, parce qu'en France, on n'a rien fait pour les autistes pendant très longtemps. Donc, ces gens-là, enfin, parmi les plus aisés, bien sûr, j'en connais plein, qui sont partis aux États-Unis, sont allés voir ce qui se faisait, et ils ont ramené en France des techniques, et ils ont fait pression, effectivement, par lobbying, pour obtenir un certain nombre de choses. Et l'UNAFAM, c'est lié tout simplement au fait qu'à un moment donné, la psychiatrie française s'est vidée, on a mis les gens à la rue. Voilà. Je me souviens à Montpellier, par exemple, j'ai retrouvé, place de la Comédie, clochardisé, tout un ensemble de patients que j'avais rencontrés à la Colombière. Voilà. Mais au Vinatier, c'est la même chose, hein, on a retrouvé des gens à Garde Pérage, etc. Donc, beaucoup de gens en prison aussi, il faut le dire, beaucoup de gens qui ont des troubles psychiatriques qui sont en prison. Voilà. Donc, elle s'est vidée, parce que quand on ne veut pas évoluer en douceur, eh bien, à un moment où ça pète. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé au fond avec notre psychiatrie française. Donc, avant que finalement, on voit aujourd'hui surgir ce qu'on pourrait appeler une nouvelle psychiatrie, finalement, qui procède différemment et qui justement incorpore toutes ces évolutions-là. Les origines, j'y reviens pas, j'y suis passé très, très vite. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au départ, donc, le case management est né à cause de phénomènes de débordement. Et donc, il s'agissait de traiter en priorité les situations les plus complexes. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. On parle vraiment, la coordination n'est reconnue officiellement que dans le cas des situations complexes. Et là, paradoxalement, les coordinateurs, on leur demande aucune formation et compétences particulières. Chercher à comprendre. Voilà. Donc, au départ, effectivement, ces situations complexes, ils posent problème. C'est parce qu'elles posent problème, évidemment, qu'on change, qu'on innove et qu'on a mis ça en place. Ça a été le cas aussi aux États-Unis, mais très vite, on s'est rendu compte que, comme on dit, on peut toujours faire mieux. Hein, et que si ça marche avec des situations complexes, ça devrait encore plus facilement marcher avec des situations qui sont moins complexes. Donc l'idée, très vite, ça a été d'appliquer cette méthodologie à tout un ensemble de situations. Et si au départ, le case management était exclusivement cantonné au secteur de la santé, il s'est très vite répandu dans toutes sortes de domaines, tout ce qui est réinsertion, tout ce qui est aide à retrouver un emploi, par exemple aussi, lutte contre les addictions. C'est-à-dire on peut appliquer finalement cette méthodologie à tout un ensemble de champs autres que celui de départ. Et finalement, aujourd'hui en France, on s'aperçoit que c'est en train de ce qui s'est passé, mais là, tant mieux, par initiative de beaucoup d'opérateurs qui ont pris les devants et aujourd'hui recrutent, forment, mettent en place des services de coordination de parcours, de case management, en ayant compris que ça peut s'appliquer à toutes les situations et pas simplement aux situations complexes. Mais on verra que, finalement, là où le bât blesse, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance officielle, hein, et ce qui pose la question du statut et de la rémunération. Il y a la question du rattachement institutionnel, effectivement, je l'ai rapidement évoqué. Pour qui travaille-t-il ? Est-il rattaché ? À un moment donné, il était question, par exemple, d'imaginer que des référents de parcours puissent être rattachée à une MDPH, par exemple. Bon. Puis ce scénario a été vite abandonné. Voilà. Mais ça, pourquoi pas ? Est-ce qu'il est rattaché à des financeurs particuliers, assurance maladie, compagnie d'assurance mutuelle, etc. ? Oui, ça commence. Voilà. Actuellement, en France, c'est surtout à des opérateurs que ces services sont rattachés. Mais ils pourraient être aussi rattachés à des services indépendants, ONG, coopératives. Ils pourraient être rattachés à des associations d'usagers. Vous avez beaucoup en Europe d'ONG, d'associations qui recrutent des avocats, qui recrutent des case managers. Et voilà. Est-il employé également directement par des bénéficiaires ou leurs proches ? Mais ça ramène à la question, comme je l'ai évoqué, de la solvabilisation. Bon, très vite, je rentre dans le vif du sujet. Là-dessus, finalement, qu'est-ce qui caractérise le case management ? On va peut-être d'abord partir des postures. Il y a un certain nombre de postures qui caractérisent le case manager. Alors, ça, ce sont les postures un peu de base. Après, on peut rajouter quelques-unes. On a coutume de dire que le case manager, au départ, puisqu'il gère souvent des programmes, il est portier. Alors, portier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la personne qui donne accès à des droits ou à un dispositif. Bon. Chez nous, le case manager n'est pas portier. Dans certains pays, il peut être portier, c'est-à-dire que c'est la personne qui décide, au vu de la situation de la personne, par exemple, de l'octroi d'un certain nombre de financements, d'aides, etc. Chez nous, c'est pas le cas. Mais voilà, il pourrait être portier. Courtier, oui. Un courtier, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui recherche les meilleures solutions dans l'intérêt de son client. Alors, on connaît, nous, plutôt, en général, des courtiers d'assurance, des courtiers pour des prêts immobiliers. Il faut savoir qu'il existe des courtiers dans tous les domaines. Voilà. Donc, ça peut être de la recherche de fournitures, de matières premières, de services, etc. Donc, un courtier est quelqu'un qui, finalement, connaît bien un secteur et est capable de dire, vous concernant, voilà les meilleures réponses qui vous conviennent. Donc, il travaille pour son client, bien sûr. Avocat, au sens de l'advocacy, hein, pas au sens totalement évidemment de la fonction d'avocat au sens juridique, mais au sens étymologique, advocare, hein, l'avocat c'est quelqu'un qui porte la voix de son client, qui relaie sa voix, qui défend sa cause, qui fait valoir ses attentes et sa situation. Donc ça j'insiste là-dessus, moi je dis souvent en formation de coordinateur de parcours, de case manager, j'en dis souvent, pour moi c'est la posture essentielle. Il faut que vous soyez convaincu d'abord que vous travaillez pour les personnes que vous suivez. Pas d'abord, même si ça peut paraître curieux, parce que vous êtes employé par un opérateur, donc comme dit un proverbe, on ne mord pas la main qui vous nourrit, mais si vous voulez, d'abord vous travaillez pour les personnes concernées. Voilà. Et il faut qu'elles en soient convaincues. Donc pour ça, il faut que vous soyez convaincant, bien sûr. Donc c'est cette posture qui me semble importante, essentielle. La deuxième, c'est celle de coach, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui va soutenir, conseiller, assurer une continuité, ça a été dit tout à l'heure, c'est une relation privilégiée. Et effectivement, j'ai bien aimé ce passage, il faut qu'il puisse assurer une certaine confidentialité. Ça va questionner, on va le voir, forcément, la question déontologique, hein, de cette fonction. On peut rajouter quelques postures, hein, on parle parfois d'ambassadeur, ça c'est quelqu'un qui va intervenir auprès de l'environnement pour faciliter, finalement, vous voyez, l'accès de la personne concernée justement à tel ou tel acteur, à telle ou telle institution. Donc, voilà. On peut parler aussi de posture d'architecte, parce que c'est quelqu'un qui est capable aussi de structurer un plan, hein, un projet, on a parlé de projet personnalisé tout à l'heure, un plan d'accompagnement, un plan pour aider la personne à réaliser son projet de vie, par exemple. Voilà. Quant au dur de sa fonction, finalement, les étapes de sa fonction, ça c'est très classique, hein, comme schéma. Mais on va retrouver ça dans toutes les fonctions assimilées, si vous voulez. Hein. Ça, c'est clair. C'est ce qui fait qu'encore une fois, toutes ces fonctions, quelle que soit l'appellation qu'on puisse leur donner, elles ont le même noyau dur au niveau méthodologique. Elles connaissent une phase d'accueil. C'est-à-dire cette phase de prise de contact qui est essentielle, hein, au cours de laquelle elles vont s'intéresser à la situation de la personne, prendre connaissance de la situation de la personne, mais aussi se présenter, expliquer leur rôle, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'était tout à l'heure, ce n'est pas un magicien. Oui, bien sûr. Donc, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui va faire des miracles, mais c'est quelqu'un qui doit être capable de définir exactement ce qu'il peut faire. La deuxième grande phase, ce qu'on appelle l'évaluation, l'appréciation de la situation de la personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans toute situation, pour nous tous d'ailleurs, c'est pareil, quel que soit notre projet, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui est possible. Voilà, c'est facile à se souvenir. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je veux sans mes aspirations, mes attentes, etc. Qu'est-ce que je peux sans mes capacités, mes compétences, le socle sur lequel on peut s'appuyer, voilà. Alors, tous des compétences très limitées, finalement. Bon, mais ce n'est pas forcément grave, puisqu'on trouve d'autres gens compétents dans tel domaine. Voilà, on peut avoir des modes de compensation techniques, etc. Et puis, qu'est-ce qui est possible? C'est justement toutes les ressources matérielles, humaines, qui existent dans notre écosystème, notre environnement, et sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, finalement, aider quelqu'un, faire un plan d'accompagnement pour cette personne, c'est envisager tout ça. Voilà. J'entends bien ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que les motivations, ce qui va motiver la personne, ce sont ses aspirations. Mais chaque fois qu'on fait quelque chose qui ne correspond pas aux aspirations d'une personne, c'est contre-productif. Parce que cette personne ne sera pas motivée, elle va même parfois faire échouer les choses qu'on va mettre en place. Donc il faut partir de ses aspirations, lui faire toucher du doigt aussi parfois le hiatus qui peut exister entre ses aspirations et ses capacités, donc évaluer ses capacités, mais aussi, évidemment, beaucoup s'appuyer sur les ressources de l'environnement qui vont bien souvent permettre d'aboutir. Donc ça veut dire concrètement, c'est quelqu'un qui doit être très formé au recueil des attentes et des aspirations. J'insiste beaucoup là-dessus au niveau des compétences, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est très important. C'est quelqu'un qui doit parfaitement maîtriser les techniques d'entretien. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui fait produire. Mais consulter, c'est faire produire, c'est aller chercher les attentes. Parce que bien souvent, les professionnels le disent d'ailleurs, bien souvent, on a affaire à des gens qui ne savent pas trop sur quel pied danser, c'est normal. Et si on leur parle de projet de vie, c'est un concept. Et si je vous dis, moi, quel est votre projet de vie, pas évident de répondre. Bon, quelles sont vos attentes? C'est pas facile. Donc c'est quelqu'un qui va finalement mettre les personnes à l'aise et petit à petit, à travers des questions très concrètes, faire émerger justement des aspirations et des attentes. Donc c'est tout un travail particulier. Il faut une formation pour ça, ou il y a des gens qui ont des qualités personnelles, bien sûr, et par leur expérience, savent très bien faire ça. Mais en tout cas, ça fait partie vraiment des qualités et compétences requises, savoir consulter au plan technique et au plan relationnel. Et puis également, dans ce cadre d'évaluation de la situation, le case manager est appelé à solliciter des bilans de compétences. Je peux demander un bilan cognitif à un psychologue, je peux demander un bilan de compétences professionnelles à un spécialiste de la question, voilà, parce que moi j'ai besoin de savoir finalement sur quoi va pouvoir s'appuyer pour justement chercher les meilleures réponses. Et puis également, j'aurais besoin de savoir aussi quelles sont les ressources existantes dans l'environnement. Il existera de plus en plus des répertoires de ressources qui permettent justement de savoir quelles sont les ressources dans l'environnement sur lesquelles on peut compter. Et puis enfin, bien sûr, après, il s'agit d'assurer le suivi, la mise en œuvre du plan qui a été prévu, de suivre les étapes, ça marche, ça ne marche pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réajuster, voilà. Encore une fois, c'est un ajusteur, un case manager, donc c'est quelqu'un qui va constamment s'enquérir du parcours de la personne pour savoir à quel moment il faut peut-être réagir. Voilà. Donc c'est à la fois un suivi et c'est aussi une évaluation régulière des effets. Donc ça peut être une évaluation très continue et très, comment dire, très, 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 très légère. Ça se passe comment? Ça va bien? Ça se passe comme vous voulez? Et puis à un moment donné, des évaluations plus complètes, des arrêts un peu sur image. Bon, où ça en est finalement de ce plan d'accompagnement? Qu'est-ce qu'il en est de votre parcours, de votre projet de vie? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? Voilà, de façon à ce qu'on puisse réagir. Voilà, donc ça c'est le... Après on peut rentrer plus dans le détail, mais là on est plus après dans un processus de formation, je dirais, de case manager, rentrer dans le détail, les outils, les méthodes, etc., de toutes ces phases-là. En fait, vous voyez, sur ce schéma-là, on voit que le case manager, c'est une interface. Ça a sauté, je diminue, ouais, souvent ça fait ça. Je vais revenir au petit schéma. Donc c'est une interface, en fait, entre une foule d'acteurs qui comprend aussi bien les personnes elles-mêmes, leurs aidants, leurs proches, etc. Ça peut être des instances style MDPH, etc., très divers, et aussi tout un ensemble de services qui sont soit internes à un dispositif institutionnel, service hospitalier, services, établissements sociaux, médico-sociaux, etc. Et ça peut être évidemment, et de plus en plus, puisque c'est le but de l'inclusion, hein, c'est de plus en plus solliciter les services de droit commun, tous les services de droit commun qui existent. Voilà. Donc le case manager, c'est vraiment une interface. Voilà. Il ne me reste pas beaucoup de temps. On arrive au terme. Voilà. Donc priorité à vos réactions. Je pense avoir dit l'essentiel. J'espère que ça a été suffisamment clair malgré tout, parce que c'est un sujet évidemment assez énorme et qui soulève beaucoup d'implications. Donc évidemment, mon propos est très, très synthétique. Il y a forcément des points que je n'ai pas abordés, mais qui sont importants, mais qui le seront peut-être ultérieurement dans la journée. C'est les implications que peut avoir le case management en termes d'organisation. C'est-à-dire que très souvent, historiquement, partout, le case management s'est mis en place. Il a coïncidé avec une réinterrogation des institutions et des organisations. Alors, pas seulement pour des raisons d'intégration des services de case management à l'intérieur d'institutions existantes, mais tout simplement parce que, forcément, avec ce changement de prisme qu'il induit, hein, ce recentrage sur la personne, cette approche beaucoup plus écosystémique, forcément, ça réinterroge nos organisations qui, comme je disais tout à l'heure, doivent se défragmenter, se décloisonner pour être de plus en plus capables de modularité. Et on voit bien aujourd'hui que c'est ce qui se passe chez nous. On est dans une période de transformation de nos organisations. On parle de dispositifs, de plateformes de services, différentes plateformes, aussi bien dans la santé que dans le médico-social, dans le social. Et ça coïncide avec cette notion de coordination de parcours. Tout ça est impulsé par la même logique, fondamentalement. Voilà. Et puis, les compétences, je n'ai pas le temps d'aborder, mais en fait, ce sont des compétences, en deux mots, ce sont des compétences d'abord relationnelles. Ce ne sont pas des technocrates, les case managers. Il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas des secrétaires de projet, ce n'est pas des technocrates. C'est des gens qui, d'abord, ont une fonction relationnelle. Donc, c'est d'abord des qualités, des compétences relationnelles. Après, c'est aussi des compétences en matière d'auto-organisation, parce que c'est des professionnels qui forcément s'auto-organisent, ont une grande marge de manœuvre. Hein. Ils gèrent leur temps, ils gèrent leur rendez-vous, etc. Donc il faut des gens aussi qui soient capables d'une certaine autonomie et de s'auto-organiser. Voilà, bref, j'en reste là. Écoutez, merci de votre attention. Place aux réactions, questions.
Sur votre dernier propos, alors vous avez parlé de la qualité relationnelle du case manager à la fin de votre propos. Enfin, vous avez insisté dessus et au début, dans votre introduction, vous avez dit aussi qu'il était dans une relation horizontale. Oui. Et je ne sais pas si c'est... moi, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, d'être dans une relation horizontale avec quelqu'un. Ou alors, on va dire d'école, mais je pense que ce n'est pas ça.
Oui, c'est une image, bien sûr. Ce n'est qu'une image. On parle aussi d'organisation horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans un processus d'autorité, de surplomb, d'autorité hiérarchique, etc. Si vous voulez... On dit la même chose pour le coaching. Un coach, si vous voulez, n'impose rien, ne prend pas de décision pour la personne. C'est en ça qu'il ne se pose pas, si vous voulez, comme un expert de la situation de la personne. Bon. C'est ça qui est très, très important. Une des premières choses qui a été réclamée par les mouvements militants nord-américains dans le domaine de l'inclusion, ça a été la reconnaissance de l'expertise des personnes. Vous voyez, en situation de handicap, présentant des pathologies, c'est l'expertise de ces personnes. Bon, aujourd'hui, on commence à reconnaître ça, à travers notamment la pérédance, par exemple. Toute personne a un certain niveau d'expertise la concernant, qui est variable, bien sûr, là, mais un certain niveau d'expertise qu'il faut reconnaître. Donc, le case manager, comme le coach, c'est quelqu'un qui, en fait, est là pour aider la personne, finalement, à exprimer des choses, à y voir plus clair, etc. Mais ce n'est pas quelqu'un qui impose quoi que ce soit. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a une relation, effectivement, c'est une image toujours, mais verticale. Ce n'est pas quelqu'un qui a une autorité voilà, sur la personne, mais qui est à ses côtés. C'est en ça qu'on parle de relation horizontale. Voilà.